BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, cette nouvelle session de BFM Stratégie. Nous allons parler de banque et climat. Les institutions financières sont au cœur de la transition climatique, à la fois pour elles, mais aussi pour leurs clientes et plus globalement pour la transformation durable de nos économies. Et ces derniers mois, plusieurs institutions, hein, la BCE, la Cour des comptes, la Banque de France, pointent du doigt les banques et il pourrait même y avoir de sérieuses amendes. On va en parler de tout ça avec Amine Benayad. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Amine, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé au sein du BCG, notre partenaire de ces BFM Stratégie, spécialiste des sujets finance et développement durable. Alors, je lisais dans un rapport du 23 janvier dernier, la BCE indique que 90% des actifs des banques européennes ne sont pas alignés avec les objectifs de l'accord de Paris. On entend pourtant des annonces, une volonté. On en a même parlé ici, hein, dans certaines des sessions BFM Stratégie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Amine ?
Donc, effectivement, Frédéric, le secteur bancaire, dans le secteur privé, a fait partie des premiers secteurs à s'être engagé il y a quelques années déjà. J'en veux pour preuve une alliance qui s'appelle la Net Zero Banking Alliance, dont on a déjà parlé. Aujourd'hui, on a plus de 140 banques engagées pour être net zéro à horizon 2050.
Et pour engager vraiment la décarbonation,
voilà,
de l'économie.
Exactement, pour engager la décarbonation, on n'est pas très loin de la moitié des actifs bancaires mondiaux qui sont représentés dans cette alliance. La deuxième chose, après l'acte de rejoindre une alliance similaire, c'est des engagements à court, moyen et long terme sur lesquels les banques se sont positionnées. Mais là, le défi auquel les banques font face, et ce qui est pointé du doigt dans certains des rapports que vous avez mentionnés, Frédéric, il est double. Le premier, c'est que l'industrie bancaire, la banque ne peut pas durablement aller plus vite que le tissu économique qu'elle représente.
Que l'économie réelle, voilà, oui.
L'économie réelle.
Si les entreprises n'y vont pas rapidement, elles ne pourront pas y aller.
Exactement. Donc les banques ont quand même un levier, une certaine forme de levier. C'est ce qu'elles ont commencé à faire sur, on va dire, les victoires rapides et simples. On peut parler du charbon, du pétrole, etc. Mais à un moment, nos sociétés, nos économies ont toujours besoin d'acier, de ciment, de béton. Et si l'industrie ne se décarbone pas au bon rythme, les banques vont avoir un peu du mal. Donc ça, c'est le premier défi. C'est qu'elles sont tributaires de la vitesse à laquelle les industries bougent et les pouvoirs politiques publics bougent également.
Parce qu'on voit aux États-Unis, ils mettent beaucoup d'argent. Hein,
exactement.
Il y a beaucoup de subventions pour les.
On a deux exemples, Frédéric, qui sont pertinents. Le premier, c'est l'Europe, avec par exemple tout ce qui a été dit sur les véhicules thermiques, les moteurs thermiques à horizon 2035. Une fois que c'est acté, les acteurs concernés commencent à se préparer. Et là, les banques sont derrière pour soutenir, pour financer, etc. Les États-Unis, c'est une autre philosophie. C'est plutôt la carotte, où il y a à peu près 500 milliards de dollars qui sont injectés dans l'économie, notamment au profit des énergies renouvelables et des énergies bas carbone. Là aussi, les banques s'activent pour aller aider leurs clients à aller attraper ces investissements et sortir de terre les installations de production d'électricité qui iraient dans ce sens. Donc voilà, ce sont deux exemples, France, Europe, États-Unis, qui montrent que quand il y a une autre action qui vient, qui n'émanent pas des banques, ça permet aux banques d'accélérer leur action. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout à l'échelle de la planète. Beaucoup de géographies où on manque encore d'actions similaires, ce qui limite un peu le.
Il y a ce problème de rythme. Il faut que tout le monde soit au même rythme. On ne peut pas être trop devant, on ne peut pas être derrière non plus.
Voilà, exactement. Mais,
et alors, le deuxième, c'est plutôt au niveau des banques. Il faut que toutes ces banques-là soient solides, quoi, parce qu'il faut
tout à fait
avoir les épaules, enfin les reins, les épaules solides pour porter tout ça.
Carrément. Et là, c'est là qu'elles font défi au deuxième défi dont je parlais. Oui. Face au deuxième défi dont je parlais, c'est que les régulateurs et les superviseurs n'avancent pas au même rythme, ne donnent pas des injonctions tout le temps convergentes. Donc aux États-Unis, le régulateur superviseur est sorti récemment, c'est assez léger et c'est un euphémisme. Là où en Europe, que ce soit la Banque Centrale Européenne ou l'Autorité Bancaire Européenne, là, les exigences ou les attentes sont beaucoup plus fortes. J'espère qu'on va pouvoir y revenir. Mais effectivement, le point de départ de ces superviseurs et ces régulateurs, c'est de se dire, nous, on a la responsabilité de garantir la stabilité financière des établissements de notre économie. Donc, pour rappel, il y a plus de 100 banques, on va dire, de taille significative sous la supervision de la BCE, 113 pour être précis. Donc, la BCE a en charge de s'assurer de la stabilité financière et donc se pose la question de ce qui se passe avec le climat et l'environnement. Est-ce que ça vient percuter cette stabilité financière et donc, du coup, exige des institutions de faire quelques travaux, de faire quelques analyses pour voir à quel point la menace est forte et à quel horizon elle l'est.
Et alors, on voit que cet alignement là, c'est pas facile hein, sur l'alignement des actifs sur l'accord de Paris. C'est pas un enjeu facile pour les banques. Mais si l'industrie bancaire, elle réussit pas à se transformer pour différentes raisons, hein, parce que elle accompagne pas assez vite. Enfin, ses clients ne vont pas assez vite, donc du coup, elle les accompagne pas parce que y a tellement de choses. On parlait de leur solidité, ça devient compliqué. Ça peut être quoi les conséquences?
Bon, d'abord, Frédéric, je pense que on est passé dans une phase où maintenant il y a plus d'incertitude sur le fait que il va se passer des choses. Oui. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui va être différent du monde dans lequel on vivra demain. La question, c'est à quel point il sera différent. Est-ce qu'on va être sur 1,5 degré moins 2 degrés? Et donc là, c'est tout le mal qu'on souhaite à la planète. Et là, l'enjeu pour les banques, il est très fort. C'est un enjeu de risque de transition, je vais y revenir. Ou est-ce qu'on va plutôt être dans un monde à plus 3 degrés, 4 degrés, avec un risque physique qui va être très très fort pour les économies et donc indirectement pour les clients des banques. Et là, à nouveau, les banques font face à un défi. Donc, si je reviens sur le premier, le risque de transition, de quoi on parle très concrètement? Imaginons qu'on soit dans ce scénario où on a réussi à maintenir le réchauffement au-dessous de 2 degrés. Bon, bah là, en tant que banque, mes clients peuvent rater une réglementation qu'ils n'ont pas vu venir ou qu'ils ont sous-estimée, peuvent rater une taxe carbone, peuvent rater une technologie qui pensait qu'elle allait maturer que dans 20 ans, or elle est mature. Et donc, ces entreprises-là qui rateraient ces virages-là, font face à un risque de défaut et de faillite. Et donc moi, en tant que banque, si je prête de l'argent et si je soutiens des acteurs comme ça, je dois m'assurer que le risque de transition est bien géré. Si on est dans le cas de plus 3, plus 4 degrés, là c'est plutôt le risque physique. Je prête également de l'argent à un cimentier. Demain, il ne pourra pas se décarboner parce que les actifs qu'il a sont dans un endroit où il y a eu la montée des eaux, la température qui grimpe. Donc je dois également regarder le risque physique. Donc face, je perds, pile, je suis à risque. Dans tous les cas, la banque doit. Et donc si les banques n'y arrivent pas, il y a deux cas de figure, Frédéric. Soit c'est une fatalité qui s'abat sur le secteur et donc là, tout le secteur va être un peu dans le même panier, mais ça, je le mets de côté. Soit ce sont plutôt des acteurs qui auront raté un peu le virage. Je parle là des acteurs bancaires.
Mais qui ont la capacité à bouger.
Et là, les cartes vont être rebattues. Clairement, entre les acteurs financiers, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Il y aura des acteurs qui vont émerger. Il y aura peut-être malheureusement aussi des acteurs qui vont disparaître. Nous, on est intimement convaincus que là, on est face à un virage vraiment très important pour les acteurs bancaires.
Et alors, les institutions, on parlait tout à l'heure des grandes banques, la Banque Centrale Européenne, elle pousse évidemment ces banques à accélérer sur le sujet. Mais là, on entend des bruits, on en parlait hors micro là juste avant que qu'on prenne l'antenne. On entend des banques européennes qui pourraient être sanctionnées, ça peut aller jusque-là. Et on sent que la pression va encore se renforcer. Qu'est-ce qui va se passer?
C'est une première, effectivement, Frédéric, on en parlait, effectivement. Donc, prenons un peu de recul. Novembre 2020, la Banque Centrale Européenne sort un texte qui s'appelle la revue thématique en disant aux banques, stabilité financière, ce que je disais tout à l'heure, quelques jalons, j'aimerais bien avoir votre retour sur ces jalons-là. Je prends deux exemples. La Banque Centrale Européenne demande à toutes les institutions de lui dire, d'un point de vue risque, climat et environnement, en quoi ça impacte les risques que porte la banque. Le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité, quantifié en euros. Ça, un premier exemple. Le deuxième exemple, elle dit aux banques, vous faites du leasing en Italie, vous faites de l'immobilier en France, vous faites de l'agriculture en Allemagne. Dites-moi, par rapport à ces business-là dans lesquels vous opérez, comment ces business, indépendamment de vous, vont être impactés par les risques climat et environnement. Comme ça, on a une vision risque et une vision business. Et donc, ça, c'était novembre 2020. Et puis, il y a une accélération inouïe parce que milieu d'année dernière, la BCE s'est fondue d'une vingtaine de lettres pour 20 établissements en leur disant les copies que j'ai vues de votre part ne sont pas bonnes. Vous avez 6 mois pour revenir avec de nouvelles copies, sinon pénalité financière. Et de quoi on parle, Frédéric, pour quelques
Donc là, c'est des amendes, quoi.
C'est des amendes. Ouais. Donc c'est même pas des amendes via de l'augmentation de capital ou de fonds propres. C'est des amendes à payer cash et en monnaie sonnante et trébuchante. On parle en termes d'ordre de grandeur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ouais. Donc sur 6 mois de retard, on peut aller jusqu'à 100 millions d'euros, ce qui est inédit l'Europe. Et donc là, que ce soit des banques européennes ou des banques américaines sous supervision européenne, parce qu'elles ont des tout le monde a reçu, une grande partie en tout cas a reçu. Et là, ce qu'on entend, c'est que il y aurait déjà 4 ou 5 banques qui seraient vraiment effectivement pénalisée. Ouais, et la BCE compte le rendre public. Ouais. Ça. Donc, c'est, il y a aussi un côté.
Et donc, on imagine aussi l'impact sur leurs clients, parce qu'à côté, voilà, les clients qui disent, bah, vous nous accompagnez, mais vous-même, vous n'êtes pas en dehors de tout reproche.
Exactement. Donc, c'est au moins aussi pénalisant que les pénalités financières, parce que beaucoup de banques en Europe, mettent en avant le fait qu'elles fassent beaucoup pour la transition. Et donc, avoir cette pénalité soi-même, ça n'aide pas vis-à-vis d'ailleurs des employés, des actionnaires, de la société civile et des clients.
Et est-ce que les banques, elles se transforment suffisamment vite aussi en termes d'organisation, d'équipe, de talent ?
Bah, écoutez, Frédéric, moi, je pense que déjà, c'est démoyenné. Il y a des banques qui ont une volonté très, très forte d'aller très vite. Mm-hmm. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, Frédéric, l'exercice là imposé par la BCE le voit comme un exercice pertinent de toute façon. Elle commente la forme, elle commente le timing un peu serré.
Mais elle vous donne, ça donne des jalons. Allez-y.
Le sous-jacent est pertinent. Et moi, c'est ma conviction profonde. Le sous-jacent est pertinent. Comprendre comment son propre business, sa propre stratégie va être impactée par les risques climat et environnement, c'est quelque chose qu'il faut faire de toute façon. Même avec un angle de profitabilité. Donc, les banques, si on revient, il y a eu trois phases. Une phase où les banques ont commencé à s'acclimater, former leur conseil d'administration. Et donc là, les banques en Europe et en France sont déjà loin devant. Deuxième phase, il y a 3-4 années, notamment en Europe, où on a commencé à s'engager, on a commencé un peu à impliquer les business, les risques, finances. Et là aussi, pour nos banques françaises et les banques européennes, ça commence à être derrière nous. La troisième phase qui s'ouvre, et là, on ne voit pas encore d'acteurs qui soient déjà allés au bout, c'est de se dire... Comment, au lieu d'avoir une stratégie climat, comment je fais le climat et l'environnement, je le mets au centre de ma stratégie tout court. Et là, on a des discussions avec des dirigeants qui sont vraiment dans cet état d'esprit. Donc ça, encore une fois, c'est le cas en Europe, en partie grâce à à cause du push du régulateur, du superviseur. Quand on commence à s'éloigner déjà aux États-Unis, et je ne vous parle même pas du Moyen-Orient et de l'Afrique, on est encore loin.
Et là, juste en conclusion, donc il y avait les banques qui étaient déjà, et on en a souvent parlé ici dans cette transformation digitale, hein, dans les années 2000-2010. Là, on va vivre quoi ? C'est vraiment une si grosse. Oui, c'est une grosse révolution qu'elles vont devoir.
C'est une conviction personnelle. Oui. C'est une très grande révolution qu'on va vivre. Parce que le parallèle avec le digital est très intéressant. Parce que l'ampleur peut être comparable, mais une différence majeure, c'est qu'avec le digital, on savait à peu près où on allait. Là, à plus 2,5 degrés, 3 degrés, donc l'incertitude va continuer à être là, va continuer à évoluer. Donc, ce chemin de crête dans le brouillard va pas être facile à trouver.
Ouais, et puis, si on manque de la lisibilité dans ses engagements, on a toujours un peu de soucis à se faire. Merci Amine Benayad, vous êtes directeur associé au sein du BCG, spécialiste des sujets finance et développement durable. Et donc, si vous avez manqué le début de cette session BFM Stratégie sur les banques et le climat, bien vous retrouvez bien entendu en replay. Merci d'avoir été avec nous.
Frédéric.
Allez, à très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.